Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Celui qui mourra dans cette occasion, quoique d'une mort violente et cruelle, sera néanmoins plus heureux que son compagnon, non seulement parce qu'il arrivera le premier à la cité céleste, mais aussi parce qu'il sera, exempt de plusieurs misères, que l'autre aura encore à essuyer dans le reste de son voyage. Cependant, dès que vous serez arrivé dans cette ville, et que vous éprouverez l'accomplissement de ce que je vous ai prédit, pensez à votre ami, et soyez plein de courage, en recommandant vos âmes au fidèle Créateur, et faisant ce qui est bon. 1 Pierre 4, 9. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Chapitre 20. La foire de la vanité. Alors je remarquai qu'en sortant du désert, ils découvrirent une ville nommée la ville de la vanité, où se tient une foire qui dure toute l'année, et qu'on nomme aussi la foire de la vanité, parce que la ville où on la tient est de moindre valeur que la vanité même, et que tout ce qu'on y apporte et qu'on y vend n'est que vanité, selon la parole du sage Ecclésiaste 1, 2. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Cette foire n'est pas établie depuis peu? Elle est fort ancienne, et il ne sera pas hors de propos d'en dire quelques particularités? Il y a quelques 1000 ans, que des pèlerins voyageaient vers la cité céleste, comme ces deux dignes personnages, le chrétien et le fidèle. Mais Béelzébul, Apollyon et Légion s'étant mêlés dans leur compagnie, et ayant remarqué qu'ils devaient passer par la ville de la vanité, ils trouvèrent bon d'y établir une foire, où toutes sortes de vanités seraient exposées en vente. On y trouve des maisons, des jardins, des héritages, des charges, des dignités, des titres, des seigneuries, des royaumes, des voluptés et toutes sortes de divertissements, des impuretés, des malices, des hommes, des femmes, des enfants, des maîtres, des serviteurs, du sang, des âmes, de l'or, de l'argent, des pierreries, et je ne sais combien d'autres choses encore. On peut encore voir, en tout temps, des tours de passe-passe, des tromperies, des spectacles, des danses, des réjouissances, des fous, des bouffons, des singes et autres choses de cette nature. On y trouve aussi des fripons, des voleurs, des meurtriers, des adultères, des parjures de toutes les couleurs, et tout cela sans qu'il en coûte rien. Et comme dans les foires les moins renommées, il y a divers quartiers qui portent chacun leur propre nom et dans lesquels sont exposées certaines marchandises particulières, cela a aussi lieu dans cette foire. Ici, c'est la cour d'Angleterre, ici la cour de France, ici celle d'Italie, et ailleurs celle de l'Espagne, d'Allemagne, etc. Dans chacune, on peut trouver quelques vanités particulières. Or, le chemin de la cité céleste passe, comme je l'ai dit, par la ville où se tient cette foire. Celui qui entreprendrait de voyager vers la patrie céleste, sans passer par cette ville, serait obligé de sortir du monde. 1 Corinthiens 5, 10. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres, autrement, il vous faudrait sortir du monde. Le roi des rois lui-même, lorsqu'il était sur la terre, et qu'il voyageait pour retourner vers son propre pays, fut obligé de passer par cette ville, et de voir toutes ses vanités. Quelqu'un même, je pense que ce fut Béelzébul, le plus puissant marchand de la foire, le sollicita d'acheter de ses vanités, lui offrant de le rendre maître de toutes les foires, s'il voulait lui rendre hommage. En considération de sa dignité, Béelzébul le mena de cour en cour, et lui montra, en un moment, tous les royaumes du monde, pour obliger, s'il lui était possible, ce sauveur béni, à acheter quelqu'une de ses vanités. Luc 4, 5. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Mais ses marchandises n'excitèrent pas chez lui la moindre envie, c'est pourquoi il abandonna la ville et n'employa pas la valeur d'un denier à l'achat de quelque vanité que ce fût. Vous voyez par tout ceci que cette foire est extrêmement ancienne et fort grande. Il fallut donc nécessairement que nos pèlerins passassent à travers la foire, mais à peine y eurent-ils mis le pied qu'il se fit un grand tumulte dans la foire et que toute la ville, d'un bout à l'autre, fut dans le trouble? On peut attribuer ces changements à plusieurs causes. Premièrement, ces pèlerins étaient vêtus d'habits fort différents de ceux des gens de la foire. C'est pourquoi ils attirèrent les regards de tout le monde. Ce sont, disaient quelques-uns, des fous, des gens hors de sens, tandis que d'autres disaient ce sont des étrangers. Deuxièmement, si l'on était étonné de la singularité de leurs habits, on n'était pas moins surpris de leur langage, car il y en avait très peu qui l'entendissent parce que le langage de ces voyageurs était celui de Canaan, tandis que les autres parlaient le langage du monde. Bref, ces pèlerins étaient considérés comme des barbares par tous ceux de la foire. Troisièmement, ce qui contribua, toutefois, le plus à exciter le trouble parmi les gens de la foire, ce fut le peu de cas que ces pèlerins faisaient de toutes ces vanités, car ils ne les estimaient pas même dignes de leur regard. Et comme on leur criait d'acheter quelque chose, ils se mirent les doigts dans les oreilles et s'écrièrent des tournes mes yeux qu'ils ne regardaient à la vanité, et aussi Colossiens 3, ainsi donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. En même temps, ils levèrent les yeux en haut, par où ils faisaient connaître que leur conversation était celle des citoyens des cieux. Il y eut un homme de la foire, entre autres, qui, les ayant observés, se tourna de leur côté et leur dit d'un ton moqueur, « Que voulez-vous acheter, vous autres ?» Mais eux, le regardant d'un air fort sérieux et avec beaucoup d'assurance, lui répondirent « Nous achetons la vérité ». Proverbe 23, 23 acquiert la vérité et ne la vend pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Ce qui donna occasion de les mépriser de nouveau. Quelques-uns se moquaient d'eux, d'autres les injuriaient et d'autres n'en parlaient qu'avec beaucoup de dédain. Il y en eut qui en vinrent jusqu'à inciter les autres à les maltraiter. Enfin, il s'éleva un tel tumulte dans la foire que tout y était dans le désordre et dans la confusion. On le rapporta aussitôt au grand maître de la foire, qui se dépêcha d'envoyer quelques-uns de ses confidents avec ordre d'examiner ces deux hommes et de trouver la source d'un si grand désordre. Là-dessus, ils furent ramenés par leurs examinateurs, qui leur demandèrent d'où ils venaient, où ils allaient, et ce qu'ils étaient venus faire là dans un accoutrement si extraordinaire. Ils répondirent qu'ils étaient des pèlerins étrangers, qu'ils allaient à leur patrie, la Jérusalem céleste, et qu'ils n'avaient donné aucune occasion, ni aux bourgeois de la ville, ni à aucun des marchands, pour qu'ils agissent si mal à leur égard, en les arrêtant dans leur voyage, à moins qu'on ne voulût s'en prendre à eux à cause qu'ils avaient répondu « Nous achetons la vérité » à quelqu'un qui leur avait demandé ce qu'ils voulaient acheter. Mais leurs examinateurs ne purent s'imaginer autre chose sinon que c'était des fous ou qu'ils étaient venus là exprès pour causer du désordre. C'est pourquoi on les fit enchaîner et mener en spectacle par toute la foire, où ils furent exposés pendant quelque temps pour être livrés devant tout le monde à l'opprobre et à toutes sortes de malices et de violences. Enfin, ils furent couverts de boue, et le grand maître de la foire, qui était aussi présent, ne faisait qu'en rire. Quant à eux, ils supportèrent tout avec patience, ne rendant point le mal pour la malle, ni outrage pour outrage, mais au contraire bénissant 1 Pierre 3, 9. Ils rendaient de bonnes paroles pour des injures et témoignaient de l'amitié à ceux qui leur faisaient tort. Quelques-uns de ceux qui étaient à la foire et qui étaient plus réfléchis que les autres, considérant la chose de plus près, commencèrent à s'opposer aux plus animés et à les reprendre. Mais ceux-ci, ne pouvant supporter leurs remontrances, entrèrent aussi en fureur contre eux et les saisirent en leur disant qu'ils étaient aussi méchants que les deux pèlerins qui étaient offerts, qu'ils avaient bien la mine d'être leur maître et de leurs partisans et qu'ils auraient sans doute le même sort. Les autres répondirent que, quant à eux, ils ne pouvaient reconnaître ces deux hommes que pour des hommes vertueux, fort paisibles, qui n'avaient fait de mal à personne, et qu'il y en avait, dans cette foire, un grand nombre, qui avaient mieux mérité d'être mis au fer, et même au carcan que ceux qu'on traitait si inhumainement. Après beaucoup de paroles de part et d'autre, les deux voyageurs demeurant, toujours dans la modération et dans la sagesse, on en vint finalement au coup. Alors les deux pauvres voyageurs furent ramenés devant leurs inquisiteurs et accusés d'avoir causé cette dernière émeute. Et après qu'ils eurent été battus, impitoyablement et remis au fer, on leur fit traîner leurs chaînes tout le long de la ville pour imprimer de la crainte à tous et pour empêcher que personne n'eût la hardiesse d'intercéder pour eux ou de se ranger de leur parti. Cependant le chrétien et le fidèle se conduisirent avec tant de sagesse et reçurent tous ces mauvais traitements avec tant de débonnaireté et de patience que plusieurs, quoique en petit nombre, en comparaison de la multitude des gens de la foire, en conçurent de l'estime pour eux et se joignirent à eux, ce qui augmenta la fureur de leurs ennemis, de sorte qu'ils résolurent de les faire mourir. C'est ce qui fut rapporté à nos deux voyageurs. Chapitre 21. Suite, procès et heureuse fin du fidèle. Alors ils se souvinrent de ce qu'ils avaient ouï dire de leur fidèle ami l'évangéliste, ce qui les affermit davantage dans leur voie et dans les souffrances qui leur survenaient, parce qu'ils considéraient qu'elles leur avaient été prédites. Ils se consolaient mutuellement par l'assurance que celui sur qui tomberait le sort en serait d'autant plus heureux, et chacun en secret souhaitait ce bonheur. Toutefois, il se remettait à la sage disposition de celui qui conduit toutes choses, toujours tranquille et content de demeurer dans l'état où ils étaient jusqu'à ce qu'il lui plût d'y apporter du changement. Peu de temps après, ils furent ramenés devant le tribunal pour y recevoir leur jugement. Leurs ennemis et leurs accusateurs comparurent avec eux en présence du juge qui se nommait l'ennemi de la vertu. Les dépositions revenaient au fond à une même chose et ne différaient que dans quelques circonstances. Les principaux chefs d'accusation étaient qu'ils étaient des ennemis de l'État, que par là ils avaient déjà causé des séditions et des émeutes dans la ville, qu'ils s'y étaient même formés un parti, ayant séduit et entraîné quelques individus dans leurs dangereuses opinions. Sur cela, le fidèle répondit qu'il ne s'était opposé à rien qu'à ce qui était contraire à la volonté du roi des rois. « Quant à l'émeute dont vous nous accusez, ajouta-t-il, ce n'est point moi qui l'ai excité, car je suis un homme de paix. Ceux qui ont parlé en notre faveur y ont été poussés, par l'évidence de notre innocence, c'est par là qu'ils se sont détournés d'un mauvais chemin pour entrer dans celui qui conduit à la vie. Pour ce qui est du prince dont vous parlez, c'est Béelzébul, l'ennemi de notre Seigneur, c'est le prince de ce monde que je déteste avec tous ses anges. » Alors on publia que tous ceux qui auraient quelque chose à avancer contre les deux prévenus eussent à se présenter et à produire leurs preuves contre eux, sur quoi il se présenta trois témoins, à savoir l'envie, la superstition et le flatteur. On leur demanda s'ils connaissaient les prisonniers qui étaient devant le siège de la justice et ce qu'ils avaient à dire contre eux et en faveur de leur propre maître. L'envie, qui eut ordre de parler avant les autres, fit ainsi sa déposition. « Monseigneur, il y a longtemps que je connais cet homme, ainsi je puis rendre témoignage sur son compte. Et, afin que ce témoignage ne soit pas suspect, je parlerai volontiers en présence de cette honorable compagnie, me souvenant de mon serment. » Après avoir prêté serment, il continua de cette manière, « Cet homme, quoiqu'il porte un si beau nom, est l'un des plus méchants de notre pays. » Il ne se soucie ni du prince, ni du peuple, ni de la loi, ni de la coutume, mais il fait ce qu'il peut pour imprimer dans l'esprit de chacun des opinions erronées qu'il nomme les règles fondamentales de la foi et de la sainteté. En particulier, je l'ai ouï dire une fois que la sainteté et les coutumes de notre ville de la vanité sont des choses diamétralement opposées qu'il est impossible de concilier. Ainsi, il condamne non seulement notre louable commerce, mais aussi nous tous qui l'exerçons. Le juge lui demanda s'il avait encore quelque chose à dire. « Oui, monseigneur, répondit-il, j'aurai encore beaucoup d'autres choses à dire, mais je ne veux pas importuner la cour. Toutefois, après que ces honnêtes gens auront déposé, je suis encore prêt à étendre davantage mes accusations contre ces malheureux, plutôt que de souffrir qu'il manque quelque chose à leur procès. » Ensuite on appela la superstition, à qui le juge commanda de faire sa déposition, et qui, en conséquence de cet ordre, ayant prêté le serment selon les lois, commença ainsi « Monseigneur, je ne connais guère cet homme, et je n'ai jamais souhaité d'avoir commerce avec lui. Je sais cependant, par un entretien que j'ai eu récemment avec lui, que cet homme est une peste publique, car il m'a soutenu que ce n'était point notre culte qui pouvait nous rendre Dieu propice, ni en général aucune, de nos pratiques extérieures. Or, si cela est ainsi, nous sommes encore dans nos péchés, c'est en vain que nous servons Dieu. Tout cela ne nous empêchera pas de périr, ce qui renverse notre religion de fond en comble. Voilà ce que j'ai à dire contre lui. » Alors on appela le flatteur, et, après, qui lui prêtait serment, il eut ordre de dire ce qu'il savait en faveur de son seigneur et contre les accusés. Mon seigneur, dit-il, et vous tous, nobles assistants, il y a longtemps que je connais ce malheureux et que je l'ai ouï proférer beaucoup de discours indignés et malséants, car il a méprisé notre grand prince Béelzébul et il a parlé en des termes fort offensants de ses meilleurs amis le vieil homme, le divertissement charnel, l'impudicité et l'avarice, en un mot de ceux que nous respections le plus. Qui plus est, il a dit que si on voulait l'en croire et si tous nos habitants étaient de son sentiment, aucun de ces personnages ne ferait un long séjour dans la ville. Il ne vous a même pas épargné, vous, monseigneur, qui êtes maintenant son juge, et il a porté le mépris et l'insolence jusqu'au dernier degré, vous nommant un scélérat et un impie et vous chargeant d'autres noms exécrables. En un mot, il a fait tout ce qu'il a pu pour rendre odieuse la plus grande partie de notre noblesse. Le flatteur n'eut pas plutôt fini son discours que le juge s'adressa aux prisonniers et leur dit « Vagabonds, traîtres, hérétiques, avez-vous bien ouï ce que ces personnes respectables viennent de déposer contre vous? Et pouvez-vous alléguer quelque chose pour votre défense ?»« S'il m'est permis, dit le fidèle, de me défendre en peu de mots. »« Abba, abba, s'écria le juge, vous n'êtes pas digne de vivre plus longtemps. » Cependant, ajouta-t-il, afin que chacun voie la bonté et la droiture avec lesquelles nous voulons agir envers vous, écoutons ce que ce misérable scélérat aura encore à dire. Voici, dit le fidèle, ce que j'ai à avancer pour ma défense. Premièrement, pour ce qui concerne la déposition de l'envie, je n'ai jamais dit autre chose, sinon que toutes les coutumes, les lois, les ordonnances et tous les peuples qui s'opposent à la loi de Dieu sont directement contraires au vrai christianisme. Si en cela j'ai mal parlé, qu'on me montre mon erreur, et je suis prêt à me rétracter. Quant au témoignage de la superstition, je n'ai autre chose à dire sinon que le vrai service divin exige nécessairement une foi divine qui ne peut exister chez un homme sans une révélation expresse de la volonté de Dieu. C'est pourquoi tout ce qui se pratique dans le culte qui ne s'accorde pas avec cette révélation ne peut, en aucune manière, être fondé sur une foi divine, mais simplement sur une foi vaine, qui ne peut servir pour la vie éternelle. À la déposition de flatteur, je réponds simplement sans m'arrêter aux dures expressions par lesquelles il m'accuse d'user de mépris et de blasphème que le chef de cette ville, avec tous ses sujets et tous ses adhérents, sont plus dignes du séjour de l'enfer que celui de cette ville ou de ce pays. Et sur cela, j'implore la grâce de mon Dieu. À ces mots, le juge prit la parole et dit aux jurés qui avaient assisté à toute cette procédure, « Nobles assesseurs de la justice, vous voyez devant vous cet homme qui a causé un si grand tumulte dans la ville. Vous avez aussi entendu ce que des personnes respectables ont déposé contre lui et ce que lui-même a répondu. Il dépend maintenant de vous, ou de le condamner à mort, ou de lui conserver la vie. » Cependant, pour éviter toute précipitation dans ce jugement, il me semble qu'il est à propos de vous remettre nos lois devant les yeux. Au temps de Pharaon, ce grand serviteur de notre prince, on publia un éditeur au sujet du trop grand accroissement de ceux qui pratiquaient un autre culte que celui du pays, pour empêcher qu'ils ne devinssent trop puissants. Il portait qu'on devait noyer tous leurs enfants mâles. Du temps du grand Nebuchadnezzar, autre serviteur célèbre de notre prince, il fut arrêté que tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant le statut d'or devaient être jetés dans une fournaise ardente. De même aussi, du temps de Darius, on publia un éditeur qui portait que si, pendant un certain temps, quelqu'un invoquait un autre dieu que le roi, il serait jeté dans la fosse aux lions. Or, ce rebelle a violé l'essentiel du contenu de nos lois, non seulement par ses pensées, ce qu'il ne faudrait pas même souffrir, mais aussi par ses paroles et ses actions qui sont absolument insoutenables. Le fidèle mérite donc infiniment plus l'application de la loi que ne le mériteraient ceux dont il s'agit dans les décrets précédents. En conséquence, je conclus pour la peine de mort. Alors les jurés se levèrent. Leur nom était l'aveugle, le perfide, le voluptueux, le méchant, le mort-vivant, l'homme de Coured, l'orgueilleux, le haineux, le menteur, le cruel, l'ennemi de la lumière et l'irréconciliable. Et après avoir prononcé leur jugement, chacun à part, contre le fidèle, ils conclurent unanimement de le déclarer coupable en la présence du juge? L'aveugle, en qualité de président, parla ainsi: « Je vois clairement que cet homme est un hérétique. » Le perfide dit « Qu'on ôte cet homme de dessus la terre ?»« Oui, s'écria le méchant, car je ne puis plus le voir. » Le voluptueux s'écria qu'il n'avait jamais pu le souffrir. « Ni moi, répondit le mort-vivant, car il a toujours condamné toutes mes actions. » « Qu'on le pende !» s'écria l'homme de Courède. C'est un homme plein d'orgueil, ajouta l'orgueilleux. Mon cœur s'aigrit quand je le vois, dit le haineux. Le menteur se mit à crier, qu'on se défasse de ce fripon. Le cruel dit, le gibet est un supplice trop doux pour lui. Qu'on l'ôte d'ici. Ajouta l'ennemi de la lumière, c'est trop différé. Et l'irréconciliable dit, quand on me donnerait le monde entier, je ne pourrais jamais me réconcilier avec lui. Ainsi, ils le déclarèrent unanimement digne de mort et le condamnèrent sur le champ à être traîné jusqu'au lieu de supplice. Là, on lui fit souffrir la mort la plus cruelle qu'on puisse imaginer, car, après l'avoir battu et fouetté, les bourreaux déchirèrent sa chair avec des couteaux, l'accablèrent de pierres, et enfin l'attachèrent à un pilier et le réduisirent en cendres.